Bienvenue à Questions d'aujourd'hui, l'émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Aujourd'hui, un sujet qui, je vais vous dire, personnellement me tient profondément à cœur, puisque j'ai pu bénéficier, lorsque j'étais plus jeune, de ce service, le service de préparation à la vie, un mouvement de jeunes. Et avec nous, nous avons Jean-Marc Saint-Jacques, clerc de Saint-Viateur, responsable aussi de ce mouvement qui est avec nous. Bienvenue, Monsieur Saint-Jacques.
Merci de m'accueillir.
Alors, j'imagine bien que si vous êtes au service de préparation à la vie, le SPV, plus connu sous cette appellation, c'est que vous avez une histoire quand même d'engagement et presque une histoire d'amour avec ce mouvement. Monsieur Saint-Jacques, pouvez-vous nous parler justement de cette belle histoire?
Il faut dire qu'effectivement, c'est une longue histoire. Depuis 50 ans, je suis présent au SPV. J'ai commencé quand j'étais à l'école secondaire dans la région de la Chute. Alors, il y avait des sœurs de Sainte-Croix très engagées dans l'école qui animaient des mouvements de jeunes. Elles m'ont interpellé et j'ai commencé là tranquillement. Et j'étais une personne excessivement timide, gênée, et qu'on m'a amené tranquillement à prendre la parole en public, travailler en groupe, bâtir des projets, m'engager dans le milieu. C'est comme ça que, pas à pas, j'ai commencé à être présent au SPV, ensuite à travailler dans des camps d'été avec des jeunes en difficulté. Et c'est là que j'ai décidé d'être un jour religieux, parce que j'ai dit, c'est ce que je veux faire, moi. L'éducation avec les jeunes en difficulté, avec les jeunes qui n'ont pas d'importance dans notre société très économique, mais qui ont du prix aux yeux de Dieu. Alors ça, je pense que c'est quelque chose que c'est de là que vient. Et là, pendant 50 ans, le SPV a une longue histoire aussi. On est à 61 ans d'histoire actuellement, là.
Effectivement, 61 ans d'histoire cette année. Vous étiez jubilaire avant l'année jubilaire, finalement. Monsieur Saint-Jacques, qu'est-ce qui a inspiré le mouvement? Est-ce qu'il y a une référence à la parole de Dieu, à la Bible?
Tout à fait. Au tout début du mouvement, on est en 1964. C'est l'époque, tout bouge au Québec et dans l'Église, et il y a une crise à l'Action catholique, et un groupe de jeunes hommes, je dirais 18 ans en moyenne, qui venaient de terminer leur école secondaire et qui voulaient quelque chose pour continuer. Ils ont rencontré le frère Léandre Dugal, clerc de Saint-Viateur aussi, et avec lui, ils ont réfléchi à qu'est-ce que pourrait être un mouvement qui continue. Alors, ils se sont inspirés de la première communauté chrétienne, les Actes 2, 42, 47. Alors, depuis le début, c'est les fidélités décrites dans les actes sont la base même du SPV. Si je les résume rapidement, l'axe de la vie de foi, la vie fraternelle et communautaire et la vie engagée. Alors, ça a le prix dépendant des époques. Parfois, c'était plus la vie engagée, justice sociale, défense des droits. Parfois, c'était plus la vie spirituelle, la quête de sens. Mais par contre, une chose qui a toujours été là, c'est la vie fraternelle, le sens de la fête, le sens de s'accueillir, le sens de se reconnaître, d'aimer se voir, apprécier d'être ensemble, marcher ensemble. Et pour des ados, maintenant, il y a des équipes plus jeunes au primaire, il y en a au secondaire, mais il y en a aussi des équipes plus vieilles, des équipes d'adultes. Mais pour des ados, se retrouver dans un groupe où ils sont connus et reconnus, c'était très important. Et je pense que le SPV, son intuition. Et la différence, je dirais, avec l'Action catholique de l'époque, c'est on a gardé la dimension analyse et comprendre le milieu et s'engager, mais on insistait beaucoup sur la vie communautaire, la vie fraternelle.
Service de préparation à la vie, c'est bien le nom du mouvement. Comment ça se fait que vous avez appelé ça « Service de préparation à la vie » Le titre est assez évocateur parce que on a toujours à se préparer à la vie, mais il y a peut-être des moments clés. Est-ce que ça serait un peu ça l'intuition?
Effectivement, c'est une bonne question. Et les premières équipes s'appelaient le Club des jeunes, tout simplement. Et pendant 3 ans, ça a porté le nom de Club des jeunes. Il y avait une équipe, deux équipes. Et tranquillement, ça s'est étendu dans les écoles qu'avaient les clercs de Saint-Viateur à ce moment-là, puis là, à d'autres écoles. Et à partir de 1967, il y a comme des écoles avec des filles et les équipes mixtes. Et c'est en 1967, c'est devenu service de préparation à la vie. Un peu pour l'idée de dire effectivement qu'on a toujours à se préparer, mais c'était à l'époque, on était des grands idéalistes. Alors c'est la vie avec un grand V, là, devenir des hommes et des femmes debout et on était très inspirés de Madeleine Delbrel, c'est-à-dire que cette vie debout, cette vie d'homme et de femme engagée, c'est dans l'ordinaire de la vie de tous les jours, dans les quotidiens, dans les choses simples de la vie. Alors ça rejoignait beaucoup les jeunes, ce qui n'empêche pas d'avoir de grands projets de transformation de société. Je vois des anciens du SPV engagés dans différents lieux aujourd'hui, dans différents courants, dans différentes approches pour amener à une société un peu plus juste et égalitaire. Mais au départ, c'était vraiment sa vie, prendre en main sa vie, ne pas et la prendre dans tous les aspects, la qualité de vie pour soi, mais la qualité de vie avec les autres et avec les années, avec toute la sensibilité sur l'environnement. Bien sûr que quand on parle d'engagement, on ne peut pas ne pas parler de l'amour de la terre et de l'engagement pour la protection de cette terre-là.
Monsieur Saint-Jacques, du SPV, du Service de préparation à la vie, vous parliez qu'il y avait des adolescents. On a surtout connu dans les premières années, je comprends bien que le Service de préparation à la vie, le SPV, vraiment regroupait plus des adolescents. Mais vous parliez qu'il y a des jeunes du primaire. Pouvez-vous développer là-dessus?
Oui, il faut savoir qu'au début, l'SPV était très fort au début des années 70, quand il y avait encore des agents pastorales dans les écoles, quand on croyait encore que dans les écoles, il pouvait y avoir des personnes où les jeunes pouvaient aller sans qu'on ouvre un dossier pour dire à quoi ça servait cette visite-là. Alors, ça, il y avait près de 300 équipes. Et quand ils ont commencé, c'est effectivement, c'était même secondaire 3 et plus au début. Et avec le temps, ils ont dit, c'est des plus jeunes ont dit, on voit notre frère, on voit notre sœur. Et c'est comme ça que tranquillement, et on a commencé à avoir des équipes à partir de 5e, 6e année. Et maintenant, ce qu'on retrouve dans d'autres pays, par exemple au Cameroun, il y a une animatrice qui fait du SPV avec la maternelle, parce qu'elle dit les valeurs qu'on annonce, les valeurs qu'on essaie d'inculquer, ou en tout cas qu'on essaie d'approfondir ensemble, elle touche aussi les enfants. Puis plus jeunes, ils ont ce sens de la fête, ils ont ce sens de s'occuper des autres, de prendre soin de leur terre. Alors, et c'est comme ça. Mais le primaire est arrivé, je dirais, autour des années 70, quand les frères et sœurs ont dit, nous aussi, on voudrait être dans le SPV.
Et pour les adultes maintenant, comment les adultes se regroupent, s'organisent pour vivre ces dimensions dont vous avez parlé, inspirées du livre des Actes des Apôtres, donc la parole de Dieu, la relation à Dieu, la fraternité, l'engagement auprès des autres, avec les autres. Comment les adultes s'organisent?
Les premières équipes d'adultes, c'est souvent soit des anciens membres du SPV ou des parents de membres du SPV qui ont commencé à cheminer ensemble pour les mêmes raisons que les jeunes, c'est-à-dire recherche de sens, qualité de vie, approfondir sa vie de foi, se donner les moyens à servir à quelque chose de bien dans la société. J'aime ça dire aux jeunes le soir avant de vous coucher, mais aujourd'hui, il me semble que j'ai servi à quelque chose de bien, je peux dormir. Mais avec les adultes, c'est un peu le même sens au départ. Et ce qu'on a trouvé, par exemple, je dirais dans les 20-30 dernières années, les quelques équipes d'adultes que nous avons, c'est des gens qui ne se retrouvent pas dans les lieux paroissiaux. Pas parce que ce n'est pas bien, mais c'est toute dimension de la communauté. Ils ne retrouvent pas la dimension de la communauté. Alors, quand ils disent que dans une équipe, si quelqu'un est malade, si quelqu'un a besoin, si quelqu'un déménage, si quelqu'un perd son emploi, et tout de suite, il y a un soutien, ce qu'ils ne retrouvent plus dans leur milieu paroissial. Alors, c'était continué comme ça, et c'est devenu vraiment des communautés de vie qui n'empêchent pas que les gens qui ont une pratique de foi plus soutenue, qui vont aller à leur paroisse les week-ends, mais c'est dans ce milieu-là qu'ils trouvent une place pour échanger sur le sens de la parole de Dieu, sur ce qu'elle veut dire pour aujourd'hui, dans nos réalités quotidiennes, avec pas une analyse, mais une réflexion sur les réalités d'aujourd'hui et non sur des grands principes spirituels et théologiques. Je pourrais en faire longtemps, je suis aussi théologien de métier, mais c'est vraiment collé sur le vécu. Encore là, on retrouve l'inspiration de Madeleine Delbrel qui a traversé le temps.
Pouvez-vous justement nous parler de son inspiration à Madeleine Delbrel?
Oui, Madeleine Delbrel, c'était, sans que j'en sois un spécialiste, là, ce que j'en retiens, c'était une spiritualité des gens ordinaires. Elle parlait des gens de la rue. Donc, une spiritualité qui s'incarne dans notre quotidien et dans tous les aspects de notre quotidien. Une spiritualité qui ne se vit pas simplement dans la célébration dominicale, par exemple. Elle a des beaux textes, hein, par exemple, sur la sainteté, qu'elle dit à peu près dans ses mots. Il y a des gens que la sainteté, c'est comme couper une chemise rapide. D'autres, c'est l'usure de la laine sur le coude par les années, par le travail assidu, par la présence aux autres. Et elle insistait aussi que la prière doit se faire dans le quotidien, parce que si la prière, c'est simplement se retirer une heure, deux heures d'adoration, ben il y a aucun père de famille, aucune mère de famille qui peut faire ça parce qu'ils sont dans la vie quotidienne. Alors, c'était toujours de ramener la dimension de foi dans l'ordinaire de la vie de tous les jours pour faire dans notre vie quelque chose qui deviendrait extraordinaire parce qu'on a su, jour après jour, lui mettre des valeurs de justice, de partage, de respect, d'écoute, de dignité de la personne, de protection de la terre. Et là, je pourrais tout sortir des valeurs évangéliques. Mais c'est ça, je pense, qui a inspiré beaucoup, beaucoup. Un de ses livres, dans ces années, c'est « La communauté selon l'Évangile ». Alors, vous voyez, ça a marqué beaucoup à cette époque-là.
Vous avez un thème chaque année, je comprends, au service de préparation à la vie. Quel est le thème de cette année?
Cette année, c'est au rendez-vous de la joie. Et en plus, le leitmotiv fondamental depuis le milieu des années 70, c'est « Vivons debout ». Avant, on changeait le leitmotiv annuellement. Puis là, dans les années 70, on avait des confrères qui travaillaient, par exemple, au Pérou avec la théologie de la libération, qui nous ont sensibilisés à l'approche de ne pas faire pour les pauvres, mais de faire avec les pauvres, de faire avec les gens. Alors là, on s'est inspiré de ce mouvement-là et on a commencé à dire « Vivons debout ». Et au fil des ans, on était très marqués par voir combien de fois Jésus, dans l'Évangile, dit « Prends ton grabat, lève-toi, la femme adultère, lève-toi, Lazare, lève-toi, sors, agissez, bougez, faites quelque chose ». Alors ça l'a beaucoup marqué. Et cette année, au rendez-vous de la joie, on s'est inspiré de la lettre du pape François pour la Journée mondiale de la jeunesse, où qu'ils invitaient à vivre pleinement la joie. Alors, on trouvait que dans un monde, le monde qui est nôtre, avec et encore plus dans ces temps-ci, avec tout ce qui nous amène à désespérer, avec tout ce qui nous amène à perdre confiance en l'avenir, ben comment on peut être des hommes et des femmes, des jeunes qui portent la joie. Et ce témoignage de joie, ce témoignage de vie heureuse, il attire, il est déjà un engagement dans notre société trop centré sur l'individualisme ou trop centré sur, j'allais dire, prenons les réseaux sociaux, j'ai 50 000 amis, mais j'ai personne à qui parler. Alors, le rendez-vous de la joie, il traitait de toutes sortes de questions comme celle-là. Chaque année, il y a un thème qui avec un programme d'animation pour les plus jeunes et pour les plus vieux, avec différentes sections. C'est comme un outil pour aider les équipes à réfléchir. Cette année, le rendez-vous de la joie, c'est redonner de la joie dans nos vies, dans nos groupes communautaires, dans notre monde, à notre terre qui a tant besoin au niveau de la protection.
Et sur votre site web, vous avez une très, très belle réflexion justement sur ce thème et nous allons inviter les auditeurs, auditrices à se rendre sur le site du service de préparation à la vie puisque ce thème est développé. Vraiment, c'est même un magnifique poème, je dois vous dire.
Merci.
À question d'aujourd'hui, nous recevons Jean-Marc Saint-Jacques, qui est responsable du service de préparation à la vie. Vous nous avez parlé de ces équipes absolument formidables, des services de préparation à la vie, que ce soit des jeunes qui sont au niveau primaire, secondaire et même des adultes. Pouvez-vous nous donner un portrait, là, où sont les équipes? On aimerait bien le savoir, au Québec, et on ira ensuite à l'international.
Au Québec, depuis quelques années, on fonctionne avec moins d'équipes. On parle d'une dizaine de groupes. Actuellement, il y en a à Sherbrooke, à Saint-Bernard, près de Saint-Hyacinthe, à Valleyfield, et les autres sont principalement dans la région de Montréal. Jeunes adultes et une équipe d'adultes, deux équipes d'adultes. Ça, c'est des groupes qu'on retrouve au Québec, des gens. C'est bien sûr que dans tous les milieux, s'il y avait des adultes qui acceptent de travailler avec des adolescents ou des jeunes adultes, il y aurait plus d'équipes. Mais aussi, c'est qu'on retrouve souvent dans le monde ecclésial des gens qui regroupent des jeunes dans leur milieu paroissial ou ailleurs, mais qui ne s'affilient pas à un mouvement. Je trouve toujours intéressant que nos équipes affilient au mouvement parce qu'ils échangent entre les équipes, puis ils s'ouvrent sur le monde. Donc, ils voient que ce qu'ils font dans leur petit milieu, c'est aussi fait par d'autres ailleurs. Donc, il y a comme une solidarité qui se crée. Alors, je pense à une invitation à tous les agents pastoraux paroissiaux à dire, ben, vous avez des groupes de jeunes, vous savez qu'il y a des mouvements qui existent encore, qui peuvent fournir des outils. Par exemple, à la paroisse, une paroisse de Rosemont aussi à Montréal, quand il a vu les documents, il dit, mais est-ce qu'on est bête de chercher à chaque année des thèmes, des sous-thèmes, de préparer des choses quand vous avez des outils qui sont adaptés à la réalité des jeunes d'ici?
Des outils qui sont adaptés à la réalité ici, qui sont peu connus, est-ce qu'ils sont accessibles sur votre site web? Est-ce que c'est facile pour les paroisses de pouvoir avoir accès?
Bon, il y a la revue de réflexion qui s'appelle Kawa. C'est un nom choisi dans les années 60, qui veut dire fraternité. Je crois que c'est en Touareg. C'était les maisons de la Kawa de Charles de Foucault, les maisons de la fraternité, ça vient de là. Et on a aussi 3 documents d'animation. C'est disponible. S'ils vont sur le site web, ils nous écrivent, puis on peut les faire parvenir en format électronique ou en format papier. Il y a des frais minimums parce qu'ils sont vraiment pas chers. Et ça, c'est disponible aussi. Et c'est comme ça qu'on le fait aussi pour le permettre aux équipes à l'international de l'avoir plus facilement.
Alors, ça veut dire que ces outils sont conçus par les gens engagés dans le service de préparation à la vie. À la lumière, à la lumière un peu des préoccupations des jeunes que vous regroupez?
La manière que les documents sont faits, c'est il y a ce qu'on appelle le comité des publications. C'est 7-8 personnes, jeunes et adultes, qui réfléchissent. Bon, c'est mon rôle aussi d'articuler tout ça, mais on arrive avec des hypothèses, on réfléchit sur des questions et on retourne ça ensuite, on fait un modèle, un schéma, et ensuite on a une assemblée. Ils étaient au mois de février, début février, une vingtaine qui ont travaillé sur les documents. Et chacun, il y avait 5 sections à travailler, c'est dans sous-équipe, chaque équipe travaille une section et de tout ça, c'est renvoyé pour finaliser tout ça. Mais donc, ça part des gens, ça part de leurs préoccupations, mais c'est aussi souvent des thèmes pour nous amener à avancer, nous amener à aller plus loin. Et aussi, le défi, c'est de rejoindre les équipes ailleurs dans le monde. Donc, on leur envoie aussi le schéma possible pour dire qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça vous rejoint, est-ce que c'est pertinent.
Souvent, au niveau des catéchèses, du catéchuménat, il y a des parcours qui sont proposés. Et plusieurs agents de pastoral ou des bénévoles, même en paroisse, cherchent quelquefois quel suivi pourrait être proposé aux jeunes. Est-ce que les propositions du service de préparation à la vie pourraient servir dans ce contexte-là?
Et tout à fait. Et habituellement, on offre aussi, dans la mesure de nos disponibilités, d'aider les gens au départ, de les rencontrer, de leur dire comment marche le document. Je veux dire, peu importe où au Québec, ça nous donne l'occasion de visiter notre province, notre pays. Mais oui, c'est disponible ça aussi. Puis, quand je dis, il y a un programme pour les plus jeunes, un programme pour les plus vieux, mais il y a aussi un guide d'animation qui suggère des choses qui pourraient être faites en équipe et qui suggère de l'animation pour les adultes.
Jean-Marc Saint-Jacques, vous parliez de l'international. Alors, je comprends bien là que le service de préparation à la vie, je dirais, a des groupes, a des antennes dans certains pays. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a environ 80 groupes à l'étranger et c'est parti au départ de missionnaires québécois qui est un peu partout dans le monde, mais aussi de gens qui l'ont connu, par exemple, des gens qui allaient aux études au CELAF, un centre d'études en théologie et en pédagogie à Abidjan. Puis là, ils ont connu le SPV là. Alors, ce qui a permis de le répandre un peu partout. Actuellement, on a des équipes en Haïti, avec toute la réalité difficile à vivre en Haïti. Ils réussissent à tenir malgré tout. On a quelques équipes au Pérou, donc langue espagnole, ça aussi c'est le défi d'assurer des présences. Et le reste, c'est Afrique et Madagascar. Madagascar et en Afrique, là, on dit le Congo, le Togo, le Cameroun, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. En Ouganda, c'est dans un camp de réfugiés. Ça aussi, c'est un projet fort intéressant. Par exemple, un de leurs projets actuels, ils ont loué des lopins de terre et ils font de la culture pour nourrir les familles qui vivent dans le camp de réfugiés. Alors, il y a souvent des projets comme ça qui sont fort intéressants.
Ça veut dire que le SPV se rend jusque dans un camp de réfugiés.
Tout à fait.
Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça leur apporte? Avez-vous des échos?
C'est la deuxième fois, on avait dans un camp au Niger par une religieuse québécoise, mais quand le camp était démantelé. Mais à l'Ouganda, ils regroupent des jeunes qui vivent dans le camp, et donc des jeunes essentiellement des réfugiés de la République du Congo. Ils les animent, ils leur donnent, ils les aident à prendre sens à leur vie, là. il leur assure les moyens d'aller à l'école. Et quand j'ai des moyens, c'est de les encourager, de les accompagner et parfois fournir du matériel scolaire. Mais là, c'est là qu'ils ont commencé à faire des choses en lien avec l'environnement. Laudato aussi a beaucoup inspiré nos équipes. Donc, ils ont créé un potager pour aider et ils ont fait un repas à Noël avec des enfants qui n'avaient personne pour fêter Noël. Et une partie du repas était faite avec les cultures qu'ils avaient faites. Donc, il y a tout comme un sens de ça, c'est fort intéressant de voir. On a des équipes comme ça, par exemple, au Congo, ils ont créé une petite école et ils ont mis le projet « Les 1000 mots de vocabulaire ». Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont pris les enfants de la rue, puis ils leur apprennent à lire et à écrire 1000 mots de vocabulaire, donc à les alphabétiser d'une certaine manière. Au Madagascar, c'est une pisciculture qui voulait financer les activités, mais en même temps, ça fait de l'apprentissage. Au Burkina Faso, on vient de lancer un poulailler parce qu'ils veulent avoir des revenus pour le SPV. Mais là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tous les jeunes de l'école ou l'équipée vont voir comment ça fonctionne pour apprendre à faire un poulailler chez eux pour assurer une plus grande autosuffisance alimentaire dans les familles. Alors, il y a souvent des petits projets comme ça, un puits d'eau, une école au Madagascar, mais toujours l'objectif, c'est de faire avec, de pas créer un projet s'il y a quelque chose à côté, de s'intégrer dans le projet à côté s'il y a lieu, de pas multiplier les choses, mais de faire avec les gens. Et parfois, ça dépasse complètement nos espérances. On a une équipe au Madagascar qui ont gardé le petit noyau SPV, mais sur leur site, ils ont tout enlevé les mots chrétiens pour avoir des subventions de la France et de la Belgique. Mais à partir de l'équipe SPV, ils ont ouvert une école, un centre de santé, un village écologique, un village touristique. Alors, vous voyez, c'est parti d'une petite affaire, mais qui ont réfléchi à regarder c'est quoi les besoins de nos milieux. Alors, c'est souvent ça. Et que la majorité ne soit pas dans l'esprit aujourd'hui, ça nous importe peu, mais ça a devenu des hommes et des femmes qui contribuent à rendre la Terre un peu plus juste.
C'est frappant de voir que ces projets partent des préoccupations des gens qui sont concernés et, comme vous dites, faire avec, ce qui est tout à fait différent de faire pour.
Oui. Tout à fait, parce que on arrive avec nos grosses bottines, là, qu'on sait tout, puis qu'on sait comment faire, et pas la surprise, mais la réalité, c'est tout autre. On le sait très bien. Mais ça, le SPV était marqué, je vais vous dire, j'ai assisté à une conférence dans les années 70, donnée par Développement et Paix à Montréal. Ça se faisait en plein milieu d'un centre commercial, là, en plein centre-ville, et à la dame, qui était, j'ai oublié son nom, une dame africaine, elle avait demandé « qu'est-ce que le Canada peut faire pour vous ?» Elle avait répondu « dites à vos compagnies de quitter notre territoire. » Parce qu'on est capable de s'organiser, puis on mangeait avant que vous arriviez. On avait l'autosuffisance alimentaire. Alors ça m'a toujours marqué de dire « oui, on n'inventera pas, on n'a pas... qu'est-ce que vous voyez, vous ?» Puis comment on va le faire, puis on va vous accompagner là-dedans. Oui, parfois, on peut avoir des idées nous aussi, puis on peut suggérer des projets, bien entendu. Là, on n'est pas bloqué à ce point-là. Là. Mais partir de leur réalité, parce que si ça vient pas d'eux, et s'ils ne s'y engagent pas, ben ça ne tiendra pas. C'est la même chose au niveau du financement. Nous n'avons pas les moyens d'assurer un gros financement. Parfois, c'est un petit montant qui est comme un appui. Le reste, ben trouver des moyens, organiser. Alors, il y a toutes sortes de et souvent, c'est des projets qui sont d'aide, par exemple, d'aller visiter une école d'orphelins, une maison d'orphelins. On change rien dans la maison, sinon de faire de la joie une journée, mais c'est que ça amène les jeunes à se sensibiliser à d'autres réalités que la leur. Et là, ça les éveille à voir, ouais, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'il y ait tant de déplacés? Par exemple, au Burkina Faso, qu'il y ait tant de déplacés, est-ce que c'est normal? Là, ils vont à leur mesure avec la limite de ce qu'ils peuvent faire dans la liberté d'expression aussi, dans certains pays.
Alors, le service de préparation à la vie, c'est aussi se sensibiliser à la vie des autres, à leur réalité, si je comprends bien.
Tout à fait.
Il y a aussi au Cameroun, j'ai vu sur votre site web, il y avait organisé une journée de l'amitié. C'est formidable, ça aussi, de rappeler ces valeurs fondamentales qui nous lient comme êtres humains.
Tout à fait. Puis ils la font maintenant à chaque année, une journée de l'amitié où c'est tout simplement une journée de l'amitié. Là. Il y a des jeux, des activités, puis et ils sont bien ensemble, puis ils ont fait la même chose autour de Noël. Et quand on échange entre équipes, et on l'a fait par Zoom il y a 2 semaines avec plusieurs responsables de région, mais c'est toujours intéressant. Par exemple, Haïti a créé il y a une vingtaine d'années ce qui s'appelait le Noël des pauvres. Dans le temps de Noël, ils ramassaient des enfants seuls, un repas, des jeux et un cadeau. Mais cette idée-là, elle est maintenant dans 2-3 autres pays où il y a du SPV, parce qu'ils ont trouvé ça fort intéressant. Ils l'ont fait au Cameroun, ils l'ont fait en Côte d'Ivoire, ils l'ont fait au Burkina Faso. Alors, je pense que c'est comme ça aussi. C'est pas de grands projets, mais pour des jeunes, c'est de très grands projets, mais ça les sensibilise et ça leur permet aussi de vivre avec d'autres mondes. Puis bon, les équipes, plusieurs équipes dans des milieux très pauvres aussi, mais ils apprennent à faire des liens avec les autres. Et ça, c'est important parce que dans une société où on individualise trop, ça me semble que c'est majeur.
Et ces liens doivent être durables aussi, ce qu'on oublie. Souvent, il y a des actions très, très charitables que les gens posent, mais c'est une fois et ils retournent pas revoir les mêmes gens. Et ça, ça peut décevoir des gens qui...
Tout à fait. Ça, c'est un exemple qu'on dit quand vous allez visiter des personnes âgées. Ben, elles vont vous attendre après. Alors, si vous n'êtes pas capable d'assurer 2-3 visites, une carte à Noël, n'y allez pas. Vous allez décevoir plus que d'autres choses. Alors, c'est de tisser ces liens-là à long terme. Ouais.
Jean-Marc Saint-Jacques, il nous reste une minute. Un rêve?
Un rêve, c'est de continuer à savoir percevoir les besoins de notre société, des jeunes, et pour les aider à développer leur plein potentiel créateur, leur plein potentiel de service auprès des autres, leur plein potentiel d'engagement à une société différente, à leur rythme, à leur manière, et d'être capable, nous, de nous adapter, de continuer, parce que ce milieu-là nous anime, nous nourrit, nous fait grandir, nous aussi, là, on est continuellement, là, d'être là, de toujours être là, traverser le temps en toute simplicité, d'avoir des adultes, bien sûr, qui veulent marcher avec nous, mais de continuer à créer des liens comme ça. Oui.
Jean-Marc Saint-Jacques, du service de préparation à la vie, merci beaucoup d'avoir été à Question d'aujourd'hui.
Merci de m'avoir reçu.
L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée, Lysandre Duplé pour Radio VM, au micro Renaud Grégoire. Merci d'avoir été là et je vous dis à bientôt.